Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 30 avril 2024. Le Premier ministre Anthony Albanese est aujourd'hui à Alice Springs dans le territoire du Nord pour faire le point sur les mesures adoptées dans cette ville pour endiguer la délinquance, en particulier la délinquance des adolescents. Et puis, à peine un an après sa création, la compagnie aérienne à bas coût Bonza semble déjà à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Et puis aux États-Unis, deux anciens rivaux ont finalement décidé de s'allier. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé qu'il apportait son plein soutien à Donald Trump dans la course à la présidentielle. Le chef du gouvernement australien, Anthony Albanese, est donc aujourd'hui dans la petite ville d'Alice Springs, dans le territoire du Nord, pour échanger avec les autorités locales et des associations, une quinzaine de jours après la levée d'un couvre-feu ciblant les mineurs qui aura duré 3 semaines. Ce couvre-feu, il avait pour objectif de mettre un terme aux éclats de violence et aux actes de délinquance, et ce après qu'un garçon de 18 ans a été tué dans un accident de voiture. D'après les échos qu'il en a eu, Anthony Albanese a indiqué que ce matin, que ce couvre-feu avait fait preuve d'efficacité.
And it seems to me it really has provided that circuit breaker. Just like last year, the decision that was made about alcohol was positive as well, had a positive impact. We need to not be ideological about this. We need to look at what works. Yes. And if it works, we're up for it. It's as simple as that.
Le 000, le numéro à appeler en Australie en cas d'urgence, va être renforcé pour faire en sorte que, quels que soient les problèmes que peuvent rencontrer les différents opérateurs téléphoniques, ils fonctionnent en toutes circonstances. Sa fragilité avait en effet été mise au jour en novembre dernier. Une panne géante chez l'opérateur Optus avait ainsi privé près d'une personne sur trois en Australie de téléphone et d'internet, et des milliers d'appels à ce numéro 000 n'avaient pas pu aboutir. Michelle Rowland, la ministre des Communications, promet ainsi une supervision renforcée de l'accès au numéro d'urgence.
We will be implementing the recommendation to establish a custodian of the 000 service. This will initially be led by the Telecommunications Industry Ombudsman, who has wide consumer confidence, but also a strong knowledge of the telco sector.
Et en marge du déplacement d'Anthony Albanese à Alice Springs, les oreilles des travaillistes sifflent très fort aujourd'hui. Ils sont accusés de laxisme pour ne pas avoir su remettre en prison les quelques 150 détenus relâchés il y a quelques mois à la suite d'une décision de la Haute Cour de justice qui avait estimé que la détention indéfinie était illégale, une situation dans laquelle se trouvaient donc une centaine environ de ressortissants étrangers ayant eu maille à partir avec la justice, mais qui par ailleurs étaient inexpulsables, soit parce que apatrides, soit parce que menacés de mort dans leur pays d'origine. Il se trouve que l'un des hommes libérés de cette manière ferait partie d'un groupe de 3 hommes arrêtés tout récemment par la police à Perth pour le cambriolage et l'agression d'un couple de personnes âgées. Un drame qui aurait pu être évité selon la sénatrice indépendante Jackie Lambie, c'est ce qu'elle a expliqué sur la chaîne 9.
Well, they broke their curfew, so that would have been the first warning. They should have been put behind bars. They broke the agreement that they had with our court system, whether they've got a monitoring anklet bracelet on or not, which would have been good if they had, but still that will not stop some of them. You won't get there quick enough before they can pull that door down. But seriously, if you'd already broken that curfew, why is he out in the street?
La tuile ce matin pour des centaines de passagers de la compagnie aérienne Bonza qui ont découvert en arrivant dans les aéroports de Melbourne, Avalon, de la Gold Coast et de la Sunshine Coast que leur vol avait été tout simplement été annulé. Cette compagnie aérienne créée en janvier 2023 et basée sur la Sunshine Coast avait déjà supprimé une partie des itinéraires qu'elle proposait 6 mois seulement après son lancement. Aujourd'hui, le PDG Tom Jordan a indiqué dans un communiqué que des discussions sur la viabilité de l'entreprise étaient en cours. Pour sa part, l'Australian Financial Review a révélé aujourd'hui que les 8 avions utilisés par cette compagnie aérienne avaient été saisis par ses créanciers. Malgré tous les noms d'oiseaux dont il a été affublé par l'ancien président américain, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, que Donald Trump a ainsi notamment surnommé « Meatball Ron », a annoncé qu'il allait soutenir le candidat républicain dans la course à la présidentielle. Les deux hommes se sont rencontrés hier à Miami. Et c'est pour Donald Trump un soutien de poids puisque Ron DeSantis dispose d'un important réseau de donateurs. Explication David Thompson pour RFI.
Fini les insultes, les surnoms moqueurs et les attaques. Ron DeSantis accepte de rentrer dans le rang 4 mois après son humiliation électorale par Donald Trump qu'il espérait détrôner durant la primaire républicaine. Au lieu de cela, le gouverneur de Floride devrait faire campagne pour l'ancien président. C'est ce soutien qui s'est négocié durant cette rencontre de plusieurs heures dimanche soir à huis clos dans un hôtel de Miami. Selon ses proches, DeSantis aurait accepté de déployer son puissant réseau de donateurs au service de la campagne Trump. Cette détente était importante pour les deux hommes. Pour Trump, d'abord, qui doit combler son retard dans les levées de fonds face au candidat démocrate Joe Biden et qui doit aussi convaincre les électeurs de son ancien rival numéro 1 à droite de le soutenir après leur lutte fratricide. Quant à Ron DeSantis, qui sort très affaibli des primaires républicaines, difficile pour lui d'imaginer un avenir politique sans le soutien de Trump. Plus que jamais l'homme fort de la droite américaine, ce qu'il reconnaissait lui-même dans une vidéo postée juste avant leur rencontre. Il est clair, dit le gouverneur de Floride, qu'une majorité des électeurs des primaires républicaines veulent donner une nouvelle chance à Donald Trump. Les démocrates, dit-il, utilisent tout leur arsenal judiciaire pour l'attaquer. David Thompson, Miami RFI.
À l'instar d'autres pays d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande est actuellement frappée par une vague de chaleur infernale. Il a ainsi fait jusqu'à 44 degrés hier dans la capitale, Bangkok, et face à ces températures démentielles, les premiers affectés sont d'abord les personnes âgées, ceux qui travaillent à l'extérieur et ceux qui sont trop pauvres pour avoir accès à la climatisation. On va retrouver Carole Izou à Bangkok pour son reportage réalisé pour Radio France Internationale.
Au marché de la lumière de la lune, près de la rivière Chao Phraya à Bangkok, Nichapat tient un stand de légumes. Depuis quelques jours, la chaleur habituelle en cette saison est devenue véritablement insupportable, ce qui rend le travail difficile et menace aussi ses revenus et ceux de sa famille.
Il fait tellement chaud, on n'a jamais connu ça. On monte à 42, 43, 44 degrés. À Bangkok et dans les provinces, c'est fou, du coup, mes légumes pourrissent plus vite. J'essaie de les asperger d'eau, mais ça peut aussi les abîmer, donc on perd de l'argent.
Si la chaleur affecte tout le monde, elle frappe plus durement les plus fragiles, les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques et les plus pauvres, qui n'ont pas accès à l'air conditionné et doivent souvent passer de longues heures à l'extérieur, vendeurs ambulants, chauffeurs de moto-taxi. Dans les campagnes, la canicule et la sécheresse menacent les récoltes et les revenus des agriculteurs. Dans les villes, la consommation record d'électricité due à l'air climatisé apporte un soulagement aux classes moyennes tout en contribuant à la hausse des températures extérieures. Carole Izou, Bangkok, RFI.
Jusqu'où s'étendent les tentacules de la Russie en Allemagne? C'est la question qui se pose outre-Rhin alors que la tête de liste pour les élections européennes du parti d'extrême droite AfD est accusée par les services tchèques de participer à un réseau de propagande russe. L'an dernier, déjà un officier de l'armée allemande avait été condamné à de la prison pour espionnage au profit de Moscou. Et hier, le procès d'un autre haut gradé s'est ouvert à Düsseldorf. On y retrouve Pascal Thibault. Pour RFI.
L'accusé explique comment la vaccination Covid et des séquelles ont perturbé son équilibre psychique. Pour ce militaire de carrière, l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 2 ans ne constitue pas une atteinte au droit international. Thomas H. reproche aux pays occidentaux de ne pas avoir mis des négociations de paix en avant. La livraison d'armes lourdes à l'Ukraine a constitué pour lui une ligne rouge. Le quinquagénaire craint une guerre nucléaire. Le collaborateur du principal service informatique et logistique de la Bundeswehr, chargé notamment des équipements militaires, copie des données sensibles, grave des CD et les dépose dans la boîte aux lettres du consulat russe à Bonn. Objectif, fournir à la Russie un avantage militaire. Faute de réponse, il prend ensuite contact avec l'ambassade russe à Berlin. Ces démarches restent sans réponse, mais le parquet estime que les informations transmises à Moscou étaient sensibles. L'officier avait par ailleurs pris contact avec le parti de gauche, Die Linke, avant de déposer une demande d'adhésion, rapidement approuvée l'été dernier, auprès du mouvement d'extrême droite AFD. Le procès doit durer jusqu'à fin juin. L'officier de la Bundeswehr risque 10 ans de prison. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Peut-être un nouvel espoir de trêve à Gaza dans le cadre de négociations se déroulant actuellement au Caire. Israël aurait proposé un cessez-le-feu de 40 jours et la libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange de celle des otages détenus par le Hamas depuis les attaques du 7 octobre. Une proposition à laquelle le mouvement islamiste doit répondre et qu'il devrait saisir, d'après Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui a qualifié cette proposition israélienne, je cite, d'extrêmement généreuse. Il est arrivé en France hier, Félix Tshisekedi, le président réélu en fin d'année dernière de la République démocratique du Congo, va être reçu aujourd'hui à l'Élysée par Emmanuel Macron. Plus tard, au cours de la même journée, il participera à un forum organisé au ministère de l'économie afin de renforcer les liens entre Paris et Kinshasa. Des liens économiques et commerciaux déjà bien engagés, d'après Antonin Kinzo, le directeur de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de République démocratique du Congo.
Je devrais dire qu'il y a une évolution dans les relations économiques entre la RDC et la France. Je vais vous donner quelques chiffres. 46 projets agréés au cours des investissements entre 2003 et 2022. 806 millions représentent les 46 projets. Je parle de 20 ans. Mais c'est 20 ans. C'est uniquement 20 ans. Et 20 ans, c'est énorme par rapport à ce qui existe. Et aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a une volonté de la France au travers de Proparco avec 500 millions qui devraient normalement être générés et injectés en RDC entre 2021 et 2025. Ça, j'appelle ça une évolution. Et aujourd'hui, je suis en train de noter que il ne vient pas seulement ici en France, quand je parle de l'île, c'est mon président de la République, le chef de l'État, en disant que nous sommes simplement en train de vous rendre l'appareil. Vous êtes venu en RDC, mais aussi pour dire que nous avons besoin que des opérateurs économiques français puissent investir avec des opérateurs économiques congolais dans une optique de partenariat gagnant-gagnant.
C'était donc le Congolais Antonin Kinzo au micro de Bruno Faure pour RFI. Pour terminer ce bulletin, on jette maintenant un petit coup d'œil à la météo du jour en Australie, qui est globalement assez maussade. Le temps est en effet marqué par des averses ce mardi à Sydney, où il fait 22 degrés, à Perth également, où le thermomètre affiche 25, tout comme d'ailleurs à Brisbane. Mais bizarrement, pas à Melbourne. À Melbourne, aujourd'hui, il ne pleut pas. Il fait 16 degrés et malgré un temps nuageux, eh bien, on devrait éviter d'être mouillé. Pour chercher le soleil aujourd'hui en Australie, en fait, il faut aller dans le top end. Un grand ciel bleu est en effet attendu aujourd'hui à Darwin, où la température va monter jusqu'à 35 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.